marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Mesdames et messieurs, avancez s'il vous plaît, l'histoire va vous parler.
Novembre 1918, une révolution commence en Allemagne.
Je viens d'apprendre que l'amirauté aurait reçu l'ordre de tenter l'assaut de la dernière chance contre l'Angleterre. Est-ce que c'est vous qui avez donné cet ordre ?
Moi ? Certainement pas.
Sachez que l'orgueil monstrueux de l'amirauté a abouti à une mutinerie de masse. Messieurs, la situation acquise est très grave. Les marins viennent de prendre le pouvoir dans tous les quartiers de la ville.
C'est une catastrophe. Que préconisez-vous, monsieur le secrétaire d'État ?
Seul un des nôtres, du Parti social-démocrate, peut encore sauver la situation. Il pourrait contenir la révolte des marins.
Et seul un social-démocrate pourra nous éviter la révolution.
Alors, revenons un peu en arrière. L'été 1918, la situation s'était retournée pour l'armée allemande et à l'automne, elle était devenue catastrophique. L'état-major avait alors tenté de se dédouaner en rendant aux civils le pouvoir discrétionnaire qu'il avait exercé jusque-là. C'est ainsi que le prince Max de Bade était devenu chancelier en octobre. Les dirigeants sociaux-démocrates du SPD se tenaient à ses côtés. Ils avaient voté les crédits de guerre en 1914 et une fois l'échec consommé, ils restaient dans l'unité nationale. Les chefs militaires étaient bien aises de déléguer aux hommes politiques la négociation de l'armistice. Quand on leur parlera plus tard de défaite, ils répondront « Quelle défaite ?» Cependant, les conditions de paix s'annonçant dures, l'amirauté décide d'un baroud d'honneur avec une sortie spectaculaire de ses navires à Kiel. Les marins se mutinent, font flotter le drapeau rouge. Nombre d'entre eux se disséminent dans le pays pour rejoindre les leurs. Le mouvement fait tache d'huile. Une révolution commence en Allemagne, dont le Kaiser a été poussé à l'abdication. On peut même soutenir qu'elle pèse sur les décisions de l'état-major allié cette fois. Le maréchal Foch aurait souhaité pousser l'avantage en pénétrant dans le territoire allemand, mais la prudence politique pousse à ne pas attiser le désordre. La révolution ne se déroulera pas selon le schéma à la russe que souhaitait l'extrême-gauche du SPD. Les sociaux-démocrates ne seront finalement pas balayés par leurs adversaires, les spartakistes. Si bien que beaucoup en Allemagne pourront dire « une révolution », mais quelle révolution ? De même qu'ils avaient pu dire « une défaite », mais quelle défaite ?
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Johann Chapoutot, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Alors au milieu de vos livres nombreux, je crois qu'il y en a trois cette année à la rentrée, de toute taille, le petit que sais-je, hein, histoire de l'Allemagne, est à recommander pour l'esprit de clarté dont vous faites preuve. Parce que dans la situation un peu confuse que je compte vous faire expliquer, il sera nécessaire. La mutinerie de Kiel, oui, fin octobre, début novembre 1918.
Oui, c'est une mutinerie donc des marins de Kiel qui refusent la sortie pour l'honneur décidée par l'état-major de la marine allemande contre la flotte britannique. Il faut voir que depuis quelques dizaines d'années, c'était l'orgueil du Reich wilhelminien que d'avoir construit une flotte capable de faire face à la Royal Navy britannique. Et il s'agissait, dans un contexte de guerre perdue, de faire une sortie suicidaire, une sortie pour l'honneur que les marins de Kiel ont refusé les 28 et 29 octobre 1918. Il faut voir que cette mutinerie-là, cet acte révolutionnaire-là, s'inscrit dans une longue lignée d'actes révolutionnaires qui ont commencé au moins dès janvier 1918, avec la grande grève générale allemande de janvier 1918, qui avait été déclenchée en soutien à la Russie, cette Russie contre laquelle le Reich voulait une paix léonine, une paix écrasante, qui avait abouti au traité de Brest-Litovsk et que les ouvriers allemands refusaient pour permettre le déploiement et le développement de la révolution en Russie.
Alors les marins ne restent pas tous à Kiel, il y en a qui se disséminent et puis de même l'armée qui est un peu en débandade voit sortir de ses rangs de petits groupes sans officiers et l'Alsace est un lieu de transit et de passage pour tous ceux qui veulent regagner de leur propre chef, sans chef, leur foyer. Et c'est ainsi que, bah, on l'a déjà dit dans l'avant-titre.
Depuis midi, le drapeau rouge flottait sur la cathédrale. C'est le signe extérieur du socialisme international. Après les longues et cruelles douleurs de l'enfantement, le drapeau rouge exprime la solution humanitaire. Le peuple allemand brisant sa coquille s'est mué, tel le peuple français, en oiseau de liberté.
La même fièvre s'empare de toutes les villes des deux provinces annexées en 1870. Mulhouse, Haguenau, Célestat, Sarrebruck, Forbach. À Colmar, on bafoue l'autorité du futur maréchal Rommel qui doit composer avec un soviet de soldats. À Metz, on ne trouve pas de drapeau écarlate et c'est la communauté turque qui prête son emblème, masquant le croissant à l'aide d'une couche de minium. À Thionville, c'est un acteur qui dirige le conseil, un aumônier à Sarrebourg, un pasteur à Neuf-Brisach. Les mines et les usines, comme de Vindel, sont occupées. On y instaure des conseils de travailleurs qui décident d'augmentation de salaire, de droits syndicaux, d'autogestion.
Après un envoi d'Alfred Döblin, l'écrivain qui à l'époque était médecin militaire, ce sont les mémoires d'un mutin, Joseph Fisch, lu par Didier Denax, soit même... Il y a des gens en Alsace qui sont très fiers que la révolution en Allemagne ait commencé en Alsace.
Alors, elle n'a pas commencé en Alsace. Elle n'a pas commencé en Alsace, à vrai dire, puisque il faut dater ça de la mutinerie des marins de Kiel, qui a été un catalyseur pour toutes les villes allemandes dès le tout début de novembre 1918. Donc avant même, hein, le 22 novembre 1918, avant même cette entrée des troupes alliées à Strasbourg.
Mais à Strasbourg, il y a un entre-deux là après le 11 novembre qui ressemble étrangement à ce qui se passe en effet dans d'autres villes. Il y a un maire socialiste. Il n'est pas contre le drapeau rouge, mais enfin, il est quand même assez soulagé, comme une très 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 grande partie de la population, quand arrivent les troupes alliées, parce qu'avec elles, c'est le retour de l'ordre, c'est le retour du pain, oui. Du pain blanc, du vin rouge, des fils, des maris. Et il y a un très beau texte de Daniel Alévy sur les fêtes du 22 novembre, à l'arrivée des alliés. Et à le lire, on se demande si c'est la patrie française qui a été sauvée ou pas d'abord la petite patrie alsacienne, lasse de toutes les difficultés qu'elle a connues. Maire socialiste à Strasbourg. Et puis alors, le prince Max de Bade laissant ses pouvoirs, un chef du gouvernement, je ne sais pas s'il faut dire gouvernement, à Berlin, qui est socialiste lui aussi.
Oui. Alors, Max de Bade, non, c'est un libéral. Oui. C'est un libéral et il fait partie de cette stratégie de l'état-major allemand qui consiste à donner aux civils la responsabilité du gouvernement pour leur faire assumer la défaite.
Mais ça, m'interrogeais sur, est-ce qu'il faut dire gouvernement d'ailleurs ?
Oui, c'est un gouvernement puisque il est chancelier. Il est chancelier de l'Empire de manière inconstitutionnelle puisque c'est l'état-major qui lui a confié ses responsabilités, mais de fait la responsabilité du pouvoir exécutif est assumée par l'état-major depuis au moins 1916, si ce n'est déjà 1914. Et pour l'état-major allemand, il s'agit de repousser la responsabilité de la défaite vers les civils. Ça, c'est une décision que Ludendorff a prise dès août 1918, lorsqu'il a vu la défaite, enfin l'échec de l'offensive à l'ouest. La guerre a été gagnée à l'est, hein, avec le traité de Brest-Litovsk. La guerre prend une autre tournure à l'ouest en août 1918 et Ludendorff a eu cette phrase célèbre, il faut que les civils et les sociodémocrates boivent la soupe désormais qu'ils nous ont eux-mêmes préparée.
Mais j'insiste sur le mot gouvernement, est-ce que c'est pas un conseil de commissaires?
Alors ça c'est quand Max de Bade confie la responsabilité du gouvernement à Friedrich Ebert, que Friedrich Ebert, qui est socialiste, social-démocrate et opposé à la révolution bolchevique qui s'est déroulée en Russie, pour satisfaire l'aile radicale du SPD, c'est-à-dire le SPD indépendant, l'USPD, Friedrich Ebert intitule son gouvernement « Conseil des commissaires du peuple ». C'est rhétorique.
Voilà. C'est rhétorique. C'est comme le drapeau rouge pour le maire de Strasbourg.
Absolument. Cela permet d'apaiser les radicaux. Et de fait, il compose un gouvernement à 6 personnes, 3 SPD et 3 SPD indépendants, qui sont l'aile gauche du SPD, dont une grande partie va fonder le Parti communiste.
Et le mot spartakiste, alors ?
Alors, les spartakistes sont des gens qui font partie de l'aile gauche du SPD, qui ont refusé le vote des crédits de guerre en 1914. Il faut voir que c'est un peu le péché originel, hein, du Parti social-démocrate, parti internationaliste, qui était opposé à la guerre entre les nations et qui, en août 1914, en raison d'une guerre défensive contre la Russie, hein, c'est l'argument qui est avancé, a voté les crédits de guerre de la même manière que la SFIO a voté les crédits de guerre en France. Donc c'est la fin de l'internationalisme socialiste, dont certains, internationalisme auquel certains sont restés fidèles, en promouvant l'idée d'une paix blanche et l'idée d'une paix à tout prix pour mettre fin à la guerre.
Donc deux tendances, deux républiques d'ailleurs vont être proclamées simultanément, parce que le SPD indépendant, les futurs communistes, ne va pas rester dans cette fausse unité que tente de diriger Ebert, qui donne d'ailleurs des gages sociaux. Hein. La congestion, les 8 heures, la protection des syndicats.
Alors il faut voir que la proclamation de la République par Scheidemann, qui est avec Ebert, un des grands chefs du SPD, a rendu Ebert fou furieux, parce que le pacte qu'il avait établi avec Max de Bade, avec le chancelier qui lui a remis ses pouvoirs, c'était la perpétuation d'une monarchie, d'une monarchie constitutionnelle. Mais cette proclamation a été doublée 2 heures après, le 10 novembre 1918, par la proclamation d'une république soviétique, hein, ce qu'on appelle la Räterepublik, la république des conseils, c'est en fait la république soviétique, proclamation par Karl Liebknecht devant le palais royal de Berlin.
Alors le modèle pour l'extrême gauche du SPD, indépendant, spartakiste, bientôt communiste, c'est la révolution russe. En témoigne ce chant qui a été composé en Russie à la fin du 19e siècle, qui a été transplanté par Scherchen en Allemagne à partir de 1917. Enfin, vous parlez infiniment mieux l'allemand que quiconque, Johann Chapoutot. Moi, je devine qu'il est question de frères, de soleil, de liberté, bien sûr.
Zur Sonne, zur Freiheit. Brüder zum Lichte empor, hell aus dem dunklen Vergangenen leuchtet die Zukunft hervor. Hell aus dem dunklen Vergangenen leuchtet die Zukunft hervor. Seht, wie der Zug von Millionen.
Pour les spartakistes conseillistes extrêmes gauchistes, il s'agit d'appliquer le modèle février, le pouvoir aux sociaux-démocrates, le modèle russe, et ensuite en accéléré, on va prendre le pouvoir nous.
Oui, et la chanson qu'on vient de passer évoque un passé sombre et un avenir glorieux. C'est la grande thématique du soleil qui se lève à l'est, de la grande lueur qui se lève à l'est. Et en effet, le modèle, c'est la procédure qui s'est déroulée en Russie en 1917. Révolution social-démocrate qui dépose le tsar en février, et puis ensuite révolution bolchevique. C'est l'espoir, très clairement, qui est nourri par ce que vous appelez les conseillistes, hein, c'est-à-dire précisément ceux qui veulent une république des conseils, c'est-à-dire une république soviétique, et qui veulent, après cette phase préparatoire social-démocrate, des sociaux-démocrates d'ailleurs qu'ils méprisent et auxquels ils ne font aucune confiance, qui veulent la véritable révolution. Et il faut voir que de leur point de vue, c'est une hypothèse tout à fait plausible. Parce que les forces sont là. Il y a eu des créations de conseils, d'ouvriers et de soldats un peu partout en Allemagne, ouvriers las du productivisme de guerre et épuisés par la famine, hein. La famine est un facteur très important de la révolution en Allemagne à cette époque, et soldats épuisés par une guerre qui n'en finissait plus. Ces conseils sont présents un peu partout, ce sont également des conseils qui sont aidés par des forces militaires, par des soldats qui sont en armes, qui ont conservé leur unité de troupes, notamment les marins de Kiel qui sont présents à Berlin et qui protègent le gouvernement et la révolution et qui protègent le Conseil des Conseils, cette espèce de soviet suprême qui s'installe à Berlin comme pouvoir parallèle au Conseil des commissaires du peuple dirigé par Ebert qui lui veut endormir la bête
et qui a quand même une réflexion sur la violence nourrie par ce qu'on appelle le courant révisionniste du socialisme. Bernstein qui dit la violence peut être aussi bien réactionnaire que révolutionnaire. La violence amène des actes rétrogrades et le gouvernement Ebert en appelle lui à l'élection et mettent en avant la perspective pour mi-janvier d'une Assemblée nationale.
Oui, vous avez parfaitement raison de rappeler ce passé-là, parce que les fractures entre révolutionnaires et évolutionnaires, on va dire, recoupent celles que l'on a vues depuis la fin du 19e siècle, entre les évolutionnistes et ceux qui étaient favorables à une révolution. On a les mêmes débats en France à cette époque. Ce que veut Ebert, c'est un pouvoir légitime fondé sur le suffrage universel. Donc, de fait, il donne des gages à l'extrême-gauche, il donne des gages sociaux avec la cogestion, avec la journée de 8 heures, ce sont les accords du 15 novembre. Et il veut la convocation d'une assemblée constituante avec un suffrage universel, vraiment universel, c'est-à-dire qui fait voter les femmes pour la première fois. Et d'ailleurs, lorsque l'assemblée se réunira à Weimar, il saluera « mesdames et messieurs les députés » pour la première fois. Et il le dit, c'est la première fois qu'on parle des dames ici et il en est heureux. Donc il veut cela. Et il est parvenu, grâce à une activité politique très intense, à rallier le Soviet suprême, c'est-à-dire le Conseil des conseils qui s'est réuni à Berlin depuis la fin novembre 1918. Il est parvenu à rallier ce conseil le 16 décembre 1918 à l'idée d'une assemblée constituante qui se réunirait non pas à Berlin, dont les circonstances sont trop troublées et qui évoquent un peu trop l'héritage prussien, mais à Weimar, l'héritage littéraire et culturel, et puis par ailleurs une ville beaucoup plus facile à protéger militairement.
C'est une course de vitesse, nous sommes maintenant au début janvier, car Karl Liebknecht, le leader communiste, lui, en appelle à une autre réunion de conseil pour empêcher l'Assemblée nationale, qui doit être élue peu de semaines après, de se réunir jamais.
L'Assemblée plénière des conseils d'ouvriers et de soldats a accepté hier de convoquer tous les conseils allemands en congrès extraordinaire face à la menace sérieuse de l'Assemblée nationale et du gouvernement, qui nous sont dans leur majorité hostiles et tenteront de supprimer les conseils d'ouvriers et de soldats. La constitution de la nouvelle Allemagne serait alors promulguée par une élite sociodémocrate sans aucune légitimité populaire. Et il serait alors difficile d'éviter une guerre civile entre la République sociodémocrate de Weimar et le comité des conseils, qui aurait notre appui, celui des cadres de la Ligue spartakiste et d'une partie de l'armée. Il est donc temps d'agir. Il faut éliminer ce gouvernement avant qu'il ait le temps de gouverner.
Un téléfilm d'Arte de Fischer-Auer. La légitimité populaire pour Ebert, elle est chez les électeurs qui vont exprimer leur choix bientôt. Mais il a besoin, face à l'insurrection que veut début janvier provoquer le mouvement communiste, d'appui. Alors, l'armée, elle n'est pas encore vraiment diminuée, comme les conditions de paix l'exigeront, mais l'armée légaliste ne suffit pas, il faut peut-être des renforts, c'est là que vont apparaître les corps francs.
Alors l'armée s'est débandée dès la fin de l'été 1918 et c'est la grande préoccupation de l'état-major qui veut donc pousser la responsabilité de la défaite vers les civils. Elle s'est débandée de trois manières, soit parce que l'on fuit et que l'on rentre chez soi, on déserte, soit parce que l'on fait des conseils, et parce qu'on est d'extrême gauche et que l'on veut prendre le pouvoir contre les officiers, soit parce que l'on fait des corps francs. C'est-à-dire qu'on est de l'autre côté du spectre politique, on estime que l'Allemagne est livrée à la chienlit de l'internationalisme, des apatrides, de leur société. Sociodémocrates, communistes, syndicalistes et derrière cela, les apatrides en chef que sont évidemment les juifs de leur point de vue. Et on constate que des unités restent entre elles, entre groupes primaires de combat, avec leurs officiers, pour continuer à combattre pour l'Allemagne, soit à l'intérieur de l'Allemagne contre les communistes, soit sur les frontières de l'Allemagne, notamment à l'Est, contre les peuples baltes et contre les Polonais. Et c'est autour de chefs charismatiques, autour d'officiers qui ont des convictions nationales conservatrices radicales, que restent agrégés avec leur armement et avec le soutien tacite et logistique du gouvernement, des hommes auxquels se joignent également deux jeunes gens qui décident de prendre part au combat. On a l'exemple d'Ernst von Salomon, par exemple, qui n'était pas un combattant de la Grande Guerre, qui était trop jeune, mais qui se rallie à des corps francs.
Et c'est les corps francs qui vont faire sans doute la décision quand l'insurrection est lancée par les communistes au mois de janvier 1919. Elle sera réprimée sévèrement, elle échouera, Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, autres grands leaders, trouveront la mort assassinée par les corps francs. Rosa Luxembourg, chantée ici un peu plus tard par le Berlin Requiem de Kurt Weill.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Après la guerre, la révolution en Allemagne, Rosa Luxembourg assassinée en janvier 1919, disait lucidement, c'est pas en 24 heures qu'on transforme un pays réactionnaire en un pays révolutionnaire. En témoignent les résultats des élections qui ont lieu aussitôt après, le 19 janvier 1919, et dont l'extrême gauche savait qui lui serait défavorable.
Alors l'extrême gauche déjà, enfin le KPD, puisque le Parti communiste allemand s'est créé le 30 décembre 1918, a refusé de participer aux élections, sur le fondement d'une idée simple, qui est le traumatisme de 1848 en France. Une élection aboutit dans un pays qui n'est pas préparé à la démocratie, à la victoire de la réaction. C'est pour cela que l'on refuse le suffrage universel. Contre une masse qui n'est pas prête à accepter des solutions révolutionnaires, il faut au contraire une avant-garde qui est celle des soviets. Donc ça, c'est ce refus de l'élection et du suffrage qu'il faut bien expliquer du côté de l'extrême gauche. A contrario, ceux qui assassinent Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, qui ne sont pas non plus favorables aux élections, puisque c'est l'armée hein, et les corps francs qui les assassinent, eux voient ont un autre traumatisme français en tête, qui est celui de la Commune de Paris. Il faut voir que la France est très importante hein, dans ses réflexions sur l'ordre et sur la Révolution. 1848 d'un côté, épouvantail de l'extrême gauche, et de l'autre côté, 1871, une défaite extérieure et une guerre civile provoquée par des communistes. Il s'agit pour l'état-major et pour l'armée d'éviter tout cela en tuant dans l'œuf et en réprimant très sévèrement cette révolution potentielle. Quant aux élections législatives, elles voient la victoire de ce qu'on appelle la coalition de Weimar à 75%. C'est le centre-gauche et le centre-catholique qui est à gauche à cette époque. Il va passer à droite à la fin des années 20, mais à l'époque il est à gauche parce qu'il est trop heureux de s'être débarrassé du Kaiserreich hein, et de Bismarck et du Kulturkampf. Donc vous avez une coalition favorable composée du centre-gauche, du centre-catholique et du SPD qui totalise 75% des voix et 75% des sièges. Et c'est cette coalition de Weimar, c'est le nom qu'on lui donne puisqu'on se réunit dans l'opéra de Weimar, qui va faire la constitution de Weimar, qui va être proclamée mais le 31 juillet 1919. Hélas.
Inspiré notamment par Max Weber, oui. Dont on disait, toujours les références françaises, il sait le français, ça aide à dire au plus juste ce que nous pensons. Mais restons quand même sur le terrain révolutionnaire qui n'est pas déserté pour autant. Parce que dans la Ruhr et surtout en Bavière, une, deux républiques de conseil vont durer longtemps.
Alors, la Ruhr, vous avez des mouvements indépendantistes, séparatistes depuis de longues dates, hein, depuis le début du 19e siècle. Il y a un rejet de ces mouvements surdéterminés un peu par le mouvement communiste. Quant à la Bavière, alors là, c'est l'immense surprise. Alors certes, c'est un territoire périphérique, c'est loin de la Prusse. Ça a toujours été, et ça l'est encore, un peu exotique, hein, du vu de Berlin. Ils sont catholiques, ils ont un drôle d'accent, ils sont aux marges de la germanité, ils sont alpins, mais enfin quand même, voir que dans un pays catholique, où la messe en latin est aussi présente, voir que dans ce pays qui a été le terreau de la contre-réforme en Allemagne, se déclenche une révolution qui aboutit à ce que l'on appelle la République des conseils, mais qui encore une fois, il faut le dire, est la République soviétique, stupéfie L'Allemagne et stupéfie le monde entier. Et parmi les gens qui sont sidérés de ce qui se passe, il y a le légat pontifical donc du Vatican, l'ambassadeur du Vatican à Munich, qui n'est autre que Geno Pacelli, le futur Pie XII, qui vit cet épisode comme un traumatisme d'autant plus grand que les spartakistes viennent lui prendre sa voiture hein, pour l'utiliser à leur fin, et qui en conçoit l'idée que le véritable danger au XXe siècle, c'est le communisme.
Alors jusqu'où a-t-il été choqué, le futur cardinal Pacelli, par la manière que les corps francs, notamment, ont utilisé en avril 1919 pour liquider la dernière république des conseils de Munich?
Maintenant, je vais vous raconter ce qui s'est passé au lycée Léopold. Les balles sifflaient de tous les côtés à la fois. Les rouges ont tiré leur dernière cartouche avant de se rendre. Le capitaine a donné l'ordre de les rassembler. J'aurais crié, vous voulez faire la révolution? Allez la faire chez les Russes si ça vous chante. Mais pas chez nous, en Bavière. On veut y vivre en paix. Et on va y rétablir l'ordre, le vrai. Alors, on en a pris trois, on les a collés au mur et on les a fusillés.
Comme ça?
La situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle.
Le poison des corps francs s'est insinué dans la vie politique allemande. Il va avoir des conséquences à moyen et à long terme. Et une rivière de sang sépare les deux gauches.
Oui, un fossé de sang dès 1919, une incompréhension totale, un désaccord sur les buts, hein, révolution soviétique d'un côté, république parlementaire de l'autre, et cette violence de la répression dirigée par les sociodémocrates en alliance avec l'état-major, hein, c'est le fameux accord téléphonique entre Friedrich Ebert et le général Gröner, chef d'état-major, dès le 10 novembre 1918, mais ils se parlent ensuite tous les jours au téléphone, l'armée tolérante les sociodémocrates au pouvoir, tolérant la république parlementaire, si et seulement si elle a les coudées franches et les corps francs par ailleurs, pour réprimer dans le sang la révolution. Et ça aboutira à un divorce des gauches qui pèsera très lourd à la fin des années 20, au début des années 30.
Dans la lutte commune impossible contre le nazisme. Et puis, un dernier trait de ce moment, c'est la coïncidence entre le traité de paix et la Constitution, et pour les opposants, les nostalgiques du Reich, c'est un péché de plus pour la République naissante de Weimar. Mais on a consacré avec vous, naguère, Johann Chapoutot, une émission à Weimar, qu'on retrouve dans une série d'entretiens avec Radio France, que vous avez publié récemment chez Talendier. C'est un des livres de la rentrée de Johann Chapoutot, et ça s'appelle Comprendre le nazisme. Et puis, je peux recommander aussi, on n'a pas le temps d'en parler, les enseignements du centenaire, c'est votre chronique dans l'IB. Je recommande particulièrement le dessin qui vous présente. Qu'est-ce qu'a dit votre fille du dessin, là?
Oui, quand ma grande fille me voit, donc il y a 4 ans, elle me dit, tiens, c'est toi quand tu étais petit, parce que le dessin est petit, effectivement.
Ça, c'est pour donner l'appétit à l'auditeur de devenir un lecteur de vos chroniques. L'émission était préparée par Frédéric Martin, avec le secours d'Adèle Caïto et de Jean-Marie Hummel, la réalisation Audrey Ripouille, Tristan Gratalon à la technique.